Vous écoutez RTL. Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Collomb, sénateur maire PS de la ville de Lyon. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolle.
Bonjour Gérard Collomb.
Bonjour.
Vous êtes en effet un proche d'Emmanuel Macron. Vous appuyez sa démarche depuis le lancement de son mouvement En Marche. Et ça n'est sans doute pas un hasard parce que finalement, la ville de Lyon, c'est un peu un laboratoire politique en France. Avec Raymond Barre et vous, vous avez voulu démontrer qu'il était possible de faire de la politique en s'entendant aussi avec l'opposition sur les grandes questions quand c'est l'intérêt de la communauté de le faire. Et donc, à travers Emmanuel Macron, c'est un peu ça que vous visez également, mais au niveau national. Donc, on va beaucoup vous parler d'Emmanuel Macron. Doit-il se lancer vraiment dans la campagne présidentielle? Enfin, doit-il être candidat, pour appeler les choses par leur nom? Mais auparavant, on voudrait vous parler de la situation d'ensemble à gauche, avec tout ce qui se passe autour de François Hollande, les déceptions de beaucoup de parlementaires, dont vous êtes en tout cas parlementaire. Est-ce que vous, comme d'autres, vous avez eu honte en découvrant le livre Confession de François Hollande ?
On va dire que je suis, comme beaucoup de Français, beaucoup de socialistes, un peu désespérés par ce qui se passe au sommet aujourd'hui de l'État. Lorsque l'on voit les dissensions se multiplier, les déclarations se faire les unes après les autres, oui, on se dit qu'on est heureux, puisque vous parliez de la ville de Lyon, d'être dans sa ville, de pouvoir rassembler et de pouvoir aller de l'avant.
Mais est-ce que vous avez eu honte ? C'est un mot qui a été repris par Manuel Valls.
Je dirais les choses autrement. Il est vrai que pouvoir parler de secret d'État et dire aux journalistes ce que l'on fait avec des chefs d'État étrangers, ce que les services secrets français doivent faire dans des pays où évidemment nous sommes en guerre, ça ne peut pas être une bonne méthode.
Alors avec moi, il y a pour vous poser des questions Yves Tréhard du Figaro, Adrien Gendre de LCI, c'est lui Adrien Gendre qui va enchaîner.
Alors bien sûr, à la fin, c'est François Hollande lui-même qui dira ce qu'il entend faire. Mais quand vous regardez cet ouvrage, les sondages, les doutes dans la majorité, vous qui soutenez Emmanuel Macron, est-ce qu'aujourd'hui, vous lui demandez à lui, François Hollande, de renoncer ?
Vous savez, il y a quelques mois déjà, j'avais dit on verra ce qui se passe à la rentrée. Soit le président de la République est capable de renouer avec les Français, il retrouve une confiance, soit effectivement, il vaudrait mieux qu'à ce moment-là, il se retire. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la confiance n'est pas là. Tous les sondages le montrent les uns après les autres. Et ce que vous venez d'indiquer, évidemment, ajoute encore aux difficultés. Alors après, c'est à lui d'apprécier. Mais quand même, nous sommes dans une situation extrêmement difficile.
Mais vous, quand même, hein, vous êtes quelqu'un qui est à gauche depuis toujours. Pour la gauche, est-ce que François Hollande doit faire don de sa personne en disant « je renonce parce que je veux absolument que la gauche reste au pouvoir » ?
Vous voyez, moi, je suis de ceux qui ont fondé le Parti Socialiste d'Épinay en 71. Et dans les années 70-74, c'est un parti qui représentait l'espoir, qui réunissait les jeunes, qui faisait en sorte que les artistes, que les architectes, que la société civile aient envie de s'engager. Aujourd'hui, est-ce qu'on donne cette envie ? C'est pour cela que, depuis quelque temps, j'ai pris un autre chemin et que je soutiens...
Mais est-ce qu'avec François Hollande, la gauche peut gagner la présidentielle ?
Aujourd'hui, dans l'État où, effectivement, il est à 4% dans les sondages, je ne vois pas comment il pourrait remonter et faire en sorte que la gauche se qualifie au deuxième tour.
Est-ce qu'il serait en mesure, Monsieur Collomb, est-ce qu'il serait en mesure même de gagner la primaire s'il était face à...
C'est pas sûr, et en plus, si vous voulez...
Ça serait pas sûr, dites-vous.
Quelle est la signification aujourd'hui de la primaire ? Je lisais donc une déclaration d'Arnaud Montebourg qui disait, finalement, si je suis battu par François Hollande, ce n'est pas pour cela que je le soutiendrai. Donc évidemment, quel est l'intérêt d'une primaire? Théoriquement, c'est fait pour qu'on désigne un champion et qu'ensuite les autres s'effacent et le soutiennent. Et là, on dit le contraire. Alors, donc il vaut mieux prendre une autre route, faire la trajectoire que réalise aujourd'hui Emmanuel Macron, essayer de réunir à l'extérieur et puis d'entraîner tout le monde pour aller chercher la victoire.
Ça veut dire Gérard Collomb, on va parler d'Emmanuel Macron, que c'est la chienlit au PS, là?
En tout cas, on ne peut pas dire que c'est la meilleure période que j'ai connue.
Quand Stéphane Le Foll dit ce matin, le patron jusqu'à nouvel ordre, c'est encore le président de la République, c'est plus le cas pour vous?
Bah écoutez, ça ne suffit pas d'affirmer. Vous savez, un patron, ça ne se décrète pas, ça s'impose naturellement.
Mais écoutez, quand même, on va venir à Emmanuel Macron, mais là, on constate un désaccord entre Manuel Valls et le président de la République. Manuel Valls reprend les termes des parlementaires, j'ai ressenti de la honte. Le président de la République dit « chacun doit être à sa tâche ». Ça peut continuer encore quelques semaines comme ça, cet attelage? Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux que, comme le propose Arnaud Montebourg ce matin, que Manuel Valls, au bout de sa démarche, et s'en aille, démissionne?
Il lui propose d'aller finalement à la primaire. Mais on voit bien que cette primaire, ça va quand même être le lieu de toutes les contradictions, de tous les affrontements. Non, moi je pense que le meilleur chemin, c'est celui effectivement que nous avons pris avec Emmanuel Macron. Non pas s'adresser à l'intérieur de partis qui aujourd'hui se réduisent à des appareils, mais en fait aller au contact du public, aller chercher toutes celles et tous ceux que la politique intéresse, mais qui aujourd'hui se désolent de voir que la politique est devenue une politique politicienne, qui ont envie effectivement que la France reparte de l'avant. C'est ce que nous essayons de faire, c'est la démarche que nous avons mis en route avec Emmanuel Macron et En Marche.
Ce que vous êtes en train de dire, là, puisque vous avez cité le congrès d'Épinay auquel vous avez participé, vous me l'aviez dit au talk Le Figaro il y a quelques semaines, en fait, Emmanuel Macron, c'est Mitterrand en 1971 qui refait le Parti Socialiste à Épinay?
D'une certaine manière, oui. Vous voyez, tous ceux qui disent, écoutez, Emmanuel Macron, il aurait mieux fait de s'inscrire dans la démarche du Parti Socialiste. Lorsque l'on se rappelle 71, on s'aperçoit que François Mitterrand était à l'extérieur et que c'était parce qu'il était à l'extérieur avec un petit nombre de personnes qu'il a pu effectivement influer sur le Parti Socialiste, redresser la SFIO et en faire un nouveau parti. Je crois qu'on est exactement dans la même situation.
Macron est parti pour faire ça. C'est-à-dire que c'est pas lui qui... C'est le Parti Socialiste qui va se coaguler autour de lui.
Oui, je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron veut réunir. Il veut réunir à la fois ceux qui sont de gauche et puis ceux qui sont du centre-droit et enfin l'immense majorité. Et alors, moi, j'en vois tous les jours de gens qui n'avaient jamais pensé s'intéresser à la politique et qui se disent « Tiens, il y a des idées nouvelles, il y a quelqu'un qui nous parle du monde d'aujourd'hui et pas du monde d'hier ». On va s'engager, on va aller avec lui.
Mais vous avez quand même le risque qu'à la fin, il y ait Emmanuel Macron et un candidat issu de la primaire.
Je ne crois pas.
Deux candidats de gauche et une élimination garantie.
Je ne le crois pas. Je pense que dans les prochaines semaines, quelqu'un va faire, si vous me permettez l'expression, le trou dans les sondages et que l'on verra effectivement qu'il est largement en tête et qu'à ce moment-là, les autres se retireront au profit, d'Emmanuel Macron.
Alors, attendez quand même. Moi, j'aimerais comprendre pourquoi vous choisissez Emmanuel Macron plutôt que Manuel Valls, qui lui aussi est un réformiste, qui finalement s'est placé un peu sur la même ligne politique.
Alors je vais vous dire, finalement, dans la gauche aujourd'hui, il me semble qu'il y a trois familles. Il y a une famille totalement archaïque, qui veut encore tout étatiser dans l'économie, qui d'une certaine manière... On voit bien sur la gauche de la gauche, il y a des gens qui veulent refaire ce qu'était finalement le socialisme étatique qu'on a connu par le passé en URSS.
La question
il y a une deuxième famille.
Non mais on aimerait avoir des noms.
Eh bien par exemple, effectivement, Mélenchon.
Et Montebourg.
Je ne mettrai pas Montebourg dans cette catégorie-là. Montebourg, il pense la démondialisation. Et c'est ça son véritable problème. C'est qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on le veuille ou non, on est dans un monde qui est unifié, qui est 1. Et donc, on ne peut plus faire comme dans les années 70, 80, les 30 glorieuses, où l'économie se développait sur la base de l'État-nation. Aujourd'hui, il faut construire un nouveau modèle. Et voyez, si les social-démocraties en Europe sont toutes en difficulté, c'est qu'elles n'ont pas construit encore ce nouveau modèle. Et ce que fait Emmanuel Macron, par la pensée qu'il porte, c'est de construire comment on peut développer les valeurs de générosité, de solidarité dans un monde qui est devenu unique.
Alors, on vous a interrompu dans votre raisonnement. Donc, vous nous disiez, il y a la gauche qui marxisante, quoi, enfin, qui est à côté de la modernité. Les deux autres ?
Il y a une gauche qui est encore keynésienne, mais au sens où on était dans l'État-nation. Mais mon ami Philippe Aguillon pourrait le dire. Ce que dit Keynes, c'est le problème, ce n'est pas tant de comprendre les idées nouvelles que de dépasser les idées anciennes. Et il y en a qui n'arrivent pas à dépasser
les
idées anciennes.
C'est la social-démocratie, en gros.
C'est la social-démocratie traditionnelle et qui aujourd'hui ne marche plus dans aucun pays parce que nous sommes à l'ère de la mondialisation, nous sommes à l'ère de révolutions technologiques qui s'enchaînent les unes aux autres, et donc il faut être sans cesse à l'avant-garde, et on ne peut pas réaliser cela dans un seul pays.
Un qualificatif à la gauche Macron, ce serait quoi ?
Justement, cette gauche qui pense la créativité, qui pense l'innovation, qui est dans l'économie de la connaissance.
Son patronyme, c'est quoi ? C'est pas une social-démocratie.
Pour moi, c'est un social-réformiste. Si vous voulez, la social-démocratie, c'était effectivement ce que les Suédois avaient expérimenté avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a marché à peu près dans tous les pays pendant les Trente Glorieuses. Aujourd'hui, on est dans une autre étape, une troisième étape qui est à inventer, et je pense qu'Emmanuel Macron est de ceux qui l'inventent. Non, c'est pas le libéralisme. Si vous voulez, par exemple, lorsque je regarde ce que je fais à Lyon, c'est toujours la puissance publique qui donne effectivement l'orientation. Mais après, on sait que l'on doit construire avec des partenaires privés. Et c'est cette imbrication entre le public et le privé qui, demain, peut faire que la France soit gagnante, comme, je dirais, dans ma ville, aujourd'hui, on arrive à être gagnant.
Si vous me permettez, on va faire un peu de théorie, mais je ne vais pas être très long. On a l'impression que le logiciel de la gauche, avec Emmanuel Macron, serait complètement chamboulé. C'est-à-dire que la gauche, elle s'est construite sur le collectif. Avec Macron, elle se construit sur l'individu. Il a même cette phrase, il faut que les Français aient la possibilité de choisir leur vie.
Ben c'est bien ça,
c'est un vocabulaire qui est
assez pouvoir choisir sa vie. Mais pour qu'on choisisse sa vie, il faut qu'on vous en donne les moyens. Moi, je le dis souvent, je suis le fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une femme de ménage. Choisir ma vie pour moi, c'était avoir des instituteurs qui disent « Ah ben, on va lui donner les moyens, effectivement, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir progresser, et à partir de là, vous choisissez votre vie. » Est-ce que vous croyez que les jeunes dans les banlieues, ils choisissent aujourd'hui leur vie ? Non, ils la subissent, et quelquefois pour le pire.
Alors, Adrien Gindre, lui, il est très impatient, parce que, voilà, vous nous parlez d'Emmanuel Macron, mais il n'est pas candidat. Adrien.
On attend le calendrier. Vous dites, là encore, c'est lui qui dira à la fin. Alors, on sait que le 5 novembre, il y aura une réunion des référents locaux. Que le 10 décembre, on apprend déjà qu'il y aura une réunion publique à Paris, région parisienne. À quel moment est-ce qu'Emmanuel Macron va nous dire « Oui, je suis candidat ». On a bien compris que vous le souhaitiez. Quand est-ce que lui le dira ?
Mais c'est lui qui va vous le dire.
Mais d'abord, est-ce que vous le souhaitez,
dans cette émission, et il vous le dira à ce moment-là.
Parce que Adrien, qui est très intelligent, a compris que vous le souhaitiez, mais moi, j'aimerais entendre « Oui, je le souhaite ».
Ah, moi, je le souhaite. Puisque je me suis engagé à ses côtés, c'est pas juste pour faire un petit tour et puis dire après on va rentrer chez soi comme ça. Non, j'ai envie qu'il soit candidat. Mais c'est à lui de choisir le timing. Et c'est quelqu'un qui, pour reprendre une expression ancienne, sait donner lui aussi du temps au temps.
Mais est-ce qu'il
hésite
encore ?
Et donc il le fait avec méthode. Vous voyez, il a commencé par faire En Marche. Souvenez-vous quand même, il y a un an et demi, il n'y avait rien. Aujourd'hui, 90 000 personnes derrière Emmanuel Macron. Quel parti aujourd'hui peut réunir autant de monde dans les meetings comme il le fait ? Dans 15 jours, verrez, il dévoilera un certain nombre de propositions. Puis ensuite...
Mais puisqu'il a fait
il réfléchit encore ? Est-ce qu'il réfléchit à cette question ou est-ce que pour lui, c'est tranché, cette candidature ?
Bah, je pense qu'aujourd'hui, dans sa tête, il a eu le temps de réfléchir. Je pense que le jour où il a démissionné de son poste de ministre de l'économie, il a mûrement réfléchi ce jour-là. Même, si je puis dire, il s'est repris en deux fois, puisqu'il est allé voir le président de la République le lundi et le mardi, parce que c'est quelqu'un d'affectif et que ça lui a coûté. Mais une fois qu'une route est tracée, je crois qu'il est tracé.
Il sera candidat, mais il y a des fenêtres de tir. Alors on va jouer un petit peu. Il y a après la primaire de la droite et avant la primaire de la gauche, ou après la primaire de la gauche, quand est-ce qu'il doit se déclarer ?
Attendez, je prends dans ma poche, je crois que j'ai la date là. Non.
Ah, je croyais que
je l'avais oublié, c'est dommage, je vous l'aurais donné. Ouais. Mais non, mais on ne va pas vous révéler ça aujourd'hui.
Le conseil que vous lui chuchoteriez à l'oreille, c'est quoi ?
C'est qu'il doit montrer qu'il n'a peur de personne et donc que son choix n'est déterminé par aucun des autres choix.
Monsieur,
et que quel que soit
Collomb.
Le candidat que la primaire de la droite donnera, il est prêt
Monsieur
à
Collomb.
Aller l'affronter.
Monsieur Collomb, tout de même, est-ce que Emmanuel Macron peut attendre que François Hollande ait dit « je suis candidat à la présidence de la République » pour se déclarer lui-même ?
Mais il n'a, je crois, jamais dit cela. Il prendra sa décision en fonction de ses propres opinions sans attendre que tel ou tel.
Ça n'est pas plié une fois que François Hollande aura dit « je suis candidat », Emmanuel Macron pourra dire ensuite « ah ben moi aussi, tiens, j'avais oublié de vous le dire ».
Non, je pense qu'il le dira le moment venu. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si vous voulez, président de la République...
Vous parlez comme Raymond Barre.
Si jamais...
Je me souviens de Raymond Barre, un jour, je lui avais dit « Vous vous déclarez quand ?» Il m'a dit « Le moment venu ». Je lui ai dit «
Encore ?» Voilà, il avait raison.
Le moment venu viendra à son heure, m'avait-il répondu.
Précisément, Gérard Collomb, est-ce qu'il peut être candidat ? Est-ce qu'il peut continuer à être candidat s'il l'est, Emmanuel Macron, si Hollande gagne la primaire et si Valls remplace Hollande et gagne la primaire lui aussi.
Monsieur Tréhard, vous me concéderez quand même que pour François Hollande, ce ne serait pas aujourd'hui le meilleur moment pour se déclarer candidat.
Ah.
Donc, on va dire que Emmanuel Macron a encore quelques temps devant lui.
Mais pourquoi vous ne pouvez pas aller au bout de votre raisonnement ? Ce ne serait pas le
Parce
meilleur moment.
Parce que ce n'est pas moi qui déclare
aujourd'hui.
La candidature,
non,
c'est
mais
lui.
Quand même, vous êtes sénateur-maire de Lyon, élu depuis longtemps, vous êtes au Parti Socialiste depuis toujours, donc depuis Épinay en tout cas, et là, vous dites, on sent bien que ce n'est pas le moment pour François Hollande. Pourquoi vous nous dites
vous
pas carrément ?
Vous voulez que je vous annonce ma prochaine candidature comme maire de Lyon ?
Non,
là,
mais...
je peux le faire dès aujourd'hui.
Non.
Mais pour le reste, c'est Emmanuel Macron de le faire.
Alors, avec quelle étiquette ? Avec l'étiquette PS ou l'étiquette En Marche ? Faudra nous le préciser, ça aussi.
Bon. Nous, vous savez, on n'a qu'une seule étiquette à Lyon, c'est le Rassemblement de la
vie autour de la gauche. Vous dites Emmanuel Macron, c'est formidable, mais il a été ministre quand même.
Oui.
Bon, son bilan est si formidable que ça ?
Ben, peut-être n'a-t-il pas pu faire tout ce qu'il souhaitait faire, comme vous le savez. La fameuse loi qu'il devait présenter, la loi Noé, dont on avait beaucoup parlé, on ne lui a pas laissé finalement la présenter. Et elle donnait une certaine orientation sur la façon dont il concevait les rapports sociaux. Tout à l'heure, vous avez dit, et après on a digressé, sur la façon dont il concevait la protection sociale. Ce qu'il pense, c'est que la protection sociale, date de la sécurité sociale, 1947, il y avait un certain état de l'économie. Et aujourd'hui, ça a complètement changé.
On va reparler de ça dans ce projet.
Cela veut dire qu'effectivement, il faut rechanger les bases de ce que doit être la protection sociale.
Mais ça, on va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Mais donc, pour vous, s'il n'a pas mieux réussi en tant que ministre de l'économie, c'est uniquement à cause de François Hollande et Manuel Valls qui l'a empêché de faire ce qu'il voulait faire.
En tout cas, ce n'était pas la grande ambition qu'il a. Moi, je vais vous lire comment j'ai connu Emmanuel Macron. Nous l'avions invité il y a 2 ans à l'université du pôle des réformateurs. Et pour la première fois, je voyais quelqu'un qui me faisait une analyse de ce qu'étaient à la fois les possibilités, mais en même temps les difficultés de la France, les possibilités et difficultés de l'Europe, qui me parlait de la place de la France et de l'Europe dans le monde, qui me parlait du monde qui est en train de se construire, pas simplement de la France d'il y a 20 ans. Et j'avais trouvé que c'était une vision qui renouvelait totalement le discours politique.
Est-ce qu'il y a eu des implications locales, par exemple à Lyon, des deux réformes Macron, de la grande réforme Macron qu'on connaît, c'est-à-dire la libéralisation du trafic des autocars et aussi de l'installation des notaires. Est-ce que vous avez vu chez vous des conséquences à ça?
Sur les autocars, oui, aujourd'hui, ils se sont développés partout. Sur la réforme du permis de conduire, elle s'est mise en place. Aujourd'hui, ce qui était considéré à l'époque comme totalement iconoclaste, le travail du dimanche,
oui.
Je vous signale que ça se met en place un peu partout.
Ça marche à Lyon.
Et j'ai vu que ma collègue parisienne, après avoir un peu hésité, aujourd'hui s'y met, parce que moi, j'étais à Paris aujourd'hui. Il y avait tout qui était fermé. Je veux dire, quand vous êtes touriste, que vous venez à Paris et que tout est fermé, j'arrivais même pas à trouver le journal du dimanche que quand même je voulais acheter pour le lire avant cette émission.
Et à Lyon, tout est ouvert ?
À Lyon, on a des quartiers qui sont ouverts et on va en ouvrir d'autres. Vous avez ici mon adjointe au commerce qui est précisément chargée
Lyon,
de cette tâche.
Lyon, qui est aussi un fief catho, tout est ouvert le dimanche ?
On va ouvrir un certain nombre de lieux. Ce qui n'empêchera pas,
vous avez vaincu la coalition,
le cardinal Barbarin de pouvoir célébrer à la basilique les
messes
pour les
chrétiens. Vous
avez
vaincu la coalition catholique syndicaliste.
Non, nous à Lyon, on essaye de travailler sur le rassemblement et de faire en sorte que chacun puisse s'y retrouver.
Adrien Jeanne.
Peut-être justement sur ce rassemblement, on va peut-être rebondir. Emmanuel Macron, lui, il veut travailler sur un clivage plus large. Vous, à Lyon, vous l'avez fait. Il y a la question qui se pose aujourd'hui, avec qui, si jamais il est désigné, si jamais il est élu, avec qui travaillerez-vous concrètement? Jusqu'où va la limite?
Alors, vous voyez, dans les élus politiques lyonnais qui sont ici, vous avez des gens qui sont de tendances très différentes. Et moi, je crois que pour gouverner un pays, comme pour gouverner une ville, il faut rassembler très largement. Et franchement, entre la gauche réformiste et puis, on va dire, un centre-droit ouvert, et puis tous les gens de la société civile qui ont envie de venir, je crois qu'il y a matière à un grand rassemblement et que la France en a besoin. Lorsque vous interrogez les Français, vous le savez, il y en a 80% qui disent il faut effectivement qu'on ait un gouvernement d'unité nationale. Alors c'est peut-être pas ça la formule, c'est certainement pas cela, mais cela montre une volonté. Ils voient bien que la France aujourd'hui est en difficulté, que si nous avons un président qui au premier tour fait aller 22%, au second tour, il fera peut-être 53, 54, mais il ne pourra pas gouverner le pays. Et donc, il faut rassembler plus largement là, des devants, et c'est ce que nous faisons.
Vous êtes en train de chasser, en fait, sur les mêmes terres qu'Alain Juppé, non ?
C'est possible que Emmanuel Macron, au deuxième tour, puisse prendre une partie de l'électorat d'Alain Juppé.
Travailler avec François Bayrou, ce serait une option pour vous ? Travailler avec François Bayrou, ce serait une option pour vous ? Il est aujourd'hui au centre du
crédit. Veut-il effectivement travailler avec Emmanuel Macron ? J'ai vu qu'il avait eu quelques répliques qui étaient un peu sévères, simplement parce qu'il voit qu'Emmanuel Macron occupe effectivement ce terrain. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin dans ce pays de rassemblements larges, comme nous savons le faire dans nos villes. C'est quand même pas un hasard si dans les villes en général qu'on dirige, on réussit bien et que quand on est au niveau national, on réussit très mal. C'est parce qu'à la base, on est capable de faire des rassemblements qui semblent tabous au niveau national, peut-être parce qu'il y a la paralysie de l'élection présidentielle qui fige les deux camps, aller les plus à droite contre les plus à gauche, etc., etc., et qui empêche ensuite de pouvoir gouverner le pays. On vient de l'expérimenter pendant 5 ans.
Vous venez de dire une chose sur Alain Juppé, en disant peut-être qu'Emmanuel Macron pourrait lui prendre au deuxième tour des électeurs. Est-ce que cela veut dire que pour vous, Emmanuel Macron, c'est l'atout de la gauche contre Alain Juppé ?
Au deuxième tour, il faut surtout essayer de faire en sorte que l'extrême droite ne puisse pas capter l'ensemble des mécontents. Vous voyez, je crois ce qu'apporte aussi Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte qu'il dérange le système. Et il y a des gens aujourd'hui qui, sans être d'extrême droite, en ont marre de ce système. Et donc, vont voter pour Marine Le Pen pour dire « Allez, on nettoie tout ». Eh bien, je pense que Emmanuel Macron peut capter une partie de cet électorat-là qui est aujourd'hui désespéré et donc qu'il peut empêcher Marine Le Pen d'être au second tour.
Alors, justement, donc, encore une fois, ma question est très précise. Est-ce que vous considérez que c'est Emmanuel Macron qui, pour la gauche, pourrait empêcher qu'on en arrive à une finale entre le candidat de droite et Marine Le Pen.
Si jamais je me suis engagé comme je l'ai fait, c'est évidemment
c'est
parce
seul,
que j'ai
c'est
cette
le seul
pensée.
Qui peut réussir ça à gauche.
Oui, bien sûr.
C'est le seul.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est le seul, oui, qui est capable, effectivement, de rassembler...
Il renouvelle la gauche, alors. C'est lui qui est le moteur de la
Mais
nouvelle gauche.
Mais venez voir.
C'est la gauche américaine, alors.
Vous êtes venu voir. Venez voir un peu les meetings, les réunions qu'il réalise. Et vous verrez à la fois le nombre des participants, la jeunesse de ces participants. Moi, je suis sidéré. Je veux dire, les jeunes adhèrent totalement parce que le monde qu'ils présentent, c'est le leur. C'est le monde de demain. C'est celui qui va se définir dans les prochaines années et qu'il est annonciateur de l'avenir.
Vous êtes prêt à être exclu du Parti Socialiste, Gérard Collomb. Jean-Christophe Cambélis l'a dit, si vous soutenez un candidat qui n'est pas celui du PS, alors il faudra prendre les mesures qui s'imposent.
Écoutez, moi je vais vous dire, je vous ai dit tout à l'heure quel était mon milieu. Pourquoi j'ai adhéré au Parti Socialiste? Parce que je porte des valeurs de générosité,
mais
de solidarité.
Aujourd'hui.
Mais on m'exclura si on veut. On peut m'exclure du Parti Socialiste, on ne pourra pas m'exclure de ce que je porte en tant que valeur socialiste. Et franchement, à Lyon, si on m'excluait du Parti Socialiste, franchement, je pense qu'il y a beaucoup de gens que cela, excusez-moi, fera un peu rire. Parce que ce n'est pas moi qui semblerais exclu, c'est le parti qui semblerait s'exclure lui-même.
Vous n'avez pas répondu à une question d'Adrien tout à l'heure qui paraît essentielle. Admettons. Emmanuel Macron gagne l'élection présidentielle. Il y a des élections législatives quelques semaines après.
Mais comment, il a gagné aussi.
Comment il gagne ces élections législatives alors que, certes, il a En Marche, mais En Marche, il n'y a pas beaucoup d'élus dans cette formation.
Aujourd'hui, vous avez déjà une cinquantaine de parlementaires. Et croyez-moi, quand vous avez gagné les élections présidentielles,
tout le monde vient à la soupe.
Les gens qui veulent venir avec nous, il y en a beaucoup. Et même, peut-être, faut-il à un moment donné faire un tout petit peu le tri de manière à ce que ne se reproduise pas ce qui s'est passé là pendant 5 ans, où vous aviez une trentaine de parlementaires qui votaient contre toutes les lois qui étaient présentées par le gouvernement.
Alors, à défaut de soupe, on va marquer une pause quand même pour les infos de 13h. On va prendre un verre d'eau et on redémarre. Et on va parler aussi du programme possible d'Emmanuel Macron.
Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérard Collomb, sénateur-maire PS de la ville de Lyon. Le débat est dirigé par Olivier Mazerolles.
Gérard Collomb, nous poursuivons le grand jury avec Yves Tréhard et Adrien Gindre. Vous dites Emmanuel Macron est le candidat rêvé pour la gauche, finalement, celui qui peut permettre à la gauche de gagner. Mais il traîne avec lui aussi une réputation de traîtrise, de celui qui n'est pas loyal. C'est ce que Manuel Valls, qui était assis à votre place il y a quelques semaines, disait la loyauté, c'est l'engagement d'une vie, ça marque une personnalité. Comment peut-on faire confiance à quelqu'un qui a déserté le gouvernement de cette façon?
Il n'a pas déserté le gouvernement. Il a vu qu'il était bloqué dans la démarche qu'il voulait mener. Vous voyez, on en a discuté longuement ensemble. Il a dit à François Hollande depuis le début, moi, je veux bien m'engager dans le gouvernement, mais à une condition. C'est qu'on soit sur une politique économique qui soit une politique économique précise. Celle peut-être dont on va parler. Puis tout d'un coup, il a vu que ce n'était plus possible, qu'il était barré pour mener cette politique. Il en a tiré les conclusions et il est parti. Vous connaissez l'adage de Chevènement, un ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne. Il ne voulait pas fermer sa gueule, il a démissionné.
Adrien Jeanne.
Alors on a parlé de François Hollande, d'Emmanuel Valls, et bien qu'il y a ceux ou celles qui sont restés au gouvernement et dont les noms circulent depuis plusieurs semaines comme de potentielles candidates. Je pense à Ségolène Royal, vous l'avez soutenue en 2007, je pense à Najat Vallaud-Belkacem, vous avez travaillé avec elle à Lyon. Est-ce que si d'aventure elles se déclaraient, si même elles étaient désignées, vous seriez prêt à reconsidérer votre soutien à Emmanuel Macron?
Non, une fois, si vous voulez, qu'on est parti, à mon avis, on est parti, on est en marche. Et donc, on ne va pas tout d'un coup faire marche arrière.
Elles ont le niveau ?
Comment ?
Est-ce qu'elles ont le niveau ?
Écoutez, moi, je ne porte pas de jugement, parce qu'autrement, je réécrirais un autre livre, et comme il y en a déjà qui ont été écrits, je ne veux porter de jugement sur personne.
Alors, on va parler du programme, mais auparavant, pour bien voir si Emmanuel Macron peut proposer un programme précis, ferme, qui soit reconnaissable, est-ce que la majorité qu'il envisage, celle dont vous nous avez parlé, très large, hein, qui aille finalement du centre-droit au centre-gauche, la majorité réformiste, est-ce que ce n'est pas une majorité de compromis, finalement, comme un peu celle qu'on a reproché à François Hollande de gérer un petit peu de sel par-ci, un petit peu de poivre par-là, pour satisfaire tout le monde ?
Non, je ne crois pas du tout. Il se trouve que depuis quelques semaines, nous travaillons avec des gens comme Jean Arthuis, par exemple, comme Renaud Dutreil. Nous avons eu le temps de discuter ensemble. Il se trouve que quelquefois, on avait été opposés par le passé. Puis, on a discuté, on a dit quelle est aujourd'hui la priorité. La priorité, c'est de redonner la compétitivité à la France. Parce que si la France... comme aujourd'hui, perd du terrain en Europe, perd du terrain dans le monde. Alors, rien n'est plus possible. On ne peut pas, on le comprend bien, mener une grande politique sociale si effectivement, au niveau économique, on est en train de régresser. Regardez, en l'espace de 10 ans, on a perdu 600 000 emplois industriels. Quand vous regardez tous les nouveaux produits, aujourd'hui, ils sont américains, ils sont sud-coréens, ils sont chinois, et la France est totalement absente. Pire, pas simplement la France, l'Europe. Et vous comprenez pourquoi, quand vous regardez, par exemple, ce que l'Europe met aujourd'hui dans la recherche, balkanisée dans tous les pays, c'est pratiquement moins que ce que met la Chine. Alors, aujourd'hui.
Je voudrais qu'on parle du programme. Alors, programme que Jean-François Kahn, dans un entretien avec Emmanuel Macron récemment...
Très bon entretien.
Ouais. Mais si je résume...
Un peu intellectuel.
Emmanuel Macron, il est européen, libéral, libertaire. En gros, c'est un peu ça. C'est ce que dit, en tous les cas, Jean-François Kahn.
Il s'est défini lui-même, à mon avis.
Oui. Bon, j'aimerais qu'on on liste plusieurs choses. D'abord, est-ce que vous êtes pour le revenu universel ?
Moi, je ne pense pas que ça soit la bonne façon d'aborder le problème. Moi, je ne suis
donc vous
pas...
êtes en désaccord avec lui là-dessus ?
Non, mais il n'a pas dit ça, je crois, parce que pour lui, la primauté, c'est quand même le travail. Mmh. Et le but, c'est de faire en sorte que les gens puissent s'épanouir dans leur travail. Et voyez, lorsqu'il s'adresse aux jeunes, par exemple, des banlieues populaires, il dit chaque fois, je veux essayer d'assouplir la possibilité d'entrer sur le marché du travail parce que je veux effectivement qu'ils rentrent dans le travail et qu'à partir de là, ils puissent s'épanouir dans leur vie.
Donc il faut sortir des 35 heures ?
Il faut en tout cas leur donner beaucoup plus de souplesse. Moi, je crois que, si vous voulez, on a un problème de compétitivité. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la France a reculé ? On était dans un taux de marge des entreprises qui était à 28% au plus bas. Grâce au CICE, au pacte de responsabilité, on est remonté aujourd'hui à 31,7 à peu près. Mais la moyenne au niveau européen, c'est 38 et en Allemagne, c'était 40. Ça veut dire que les autres... ils avaient plus de moyens pour innover, pour investir. Et nous, nous avons perdu du terrain.
Donc, si
c'est cela qu'il faut combler.
Alors, si ça ne suffit pas, par quelle méthode on peut accélérer le retour de la compétitivité des entreprises françaises ?
D'abord, essayer d'être dans l'économie de l'innovation. Aider comme il le fait. Vous savez que c'est sa marque de fabrique, l'ensemble des start-up. Moi, je vois dans une agglomération comme Lyon, il y a des milliers de jeunes qui aujourd'hui sont dans le numérique, qui fondent leur entreprise, à qui il faut donner un coup de main, à qui il faut
mais
faire en sorte
Gérard
qu'ils ne
Collant,
soient pas paralysés par les
on
normes.
On a du mal, à chaque fois qu'Emmanuel Macron prend la parole, à voir ce que concrètement cela pourrait signifier s'il était au pouvoir. Aider les entreprises, c'est quoi ? C'est une baisse d'impôts, de charges ? Comment est-ce que on a du mal
dire,
à voir ce qu'il
exemple,
veut ?
C'est le contraire de ce qu'on avait fait il y a à peu près 3 ans, quand il y avait eu le problème des pigeons, où finalement, on avait taxé ceux qui investissaient. Et donc, au contraire, il faut aider ceux qui investissent. Ça veut dire que oui, quand l'argent va à l'investissement productif, il faut baisser l'impôt.
Moins d'impôts, moins de normes ?
Moins de normes. Alors là, vous parlez à quelqu'un qui est accablé sous le poids des normes. Moi, j'ai doublé mon service juridique en l'espace d'une dizaine d'années, parce que des normes, il en arrive partout. Vous avez tous les acteurs qui sont dans la salle, qui peuvent être architectes, qui peuvent être culturels, qui peuvent être dans tous les domaines. Vous voyez la façon dont aujourd'hui ils ont une norme chaque jour,
très bien,
c'est
les
extraordinaire.
Alors, les normes, vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de nous dire? Vous êtes sénateur depuis...
Depuis quand
vous êtes
99.
Depuis 99.
Mais c'est pour ça, si vous voulez,
vous
qu'on dit quelquefois que je ne suis pas de ceux qui y vont le plus souvent, parce que je trouve qu'une des graves erreurs du temps du général de Gaulle, je vous rappelle qu'il y avait une session au Parlement d'automne où on votait le budget et une session de printemps où pendant 3 mois on faisait les lois.
D'accord.
C'était des grandes lois cadrées. Aujourd'hui, on siège tous les jours, toutes les nuits, et on produit de la norme chaque jour.
D'accord.
Vous
alors,
demandez
vous
à
protestez.
M. Debré, qui a regardé cela de près, il vous dira qu'en l'espace d'une session, on a multiplié par 3 le nombre de textes.
Alors, les normes, c'est tout simplement enquiquiner les Français, ceux qui veulent faire des choses, tout en restant... Alors, attendez, ma question, elle est simple. Vous êtes donc sénateur depuis 1999. Beaucoup de parlementaires comme vous se plaignent des normes, parce qu'ils ont aussi des responsabilités locales. Les ministres se plaignent des normes, les présidents de la République, moi j'ai entendu François Hollande, mais aussi Nicolas Sarkozy, et puis Jacques Chirac auparavant, qui se plaignaient des normes. Comment Emmanuel Macron, lui, il arrive, il dit « Ah ben les normes, on va balayer tout ça ». Comment il fait ?
Ben d'abord, à mon avis, si vous voulez, il faut qu'il y ait un gouvernement qui soit un gouvernement resserré. Parce que, en général, dans chaque gouvernement, on nomme un ministre qui est chargé de réduire les normes. Mais il y en a 25 qui sont chargés d'en faire. Donc évidemment, il y a un déséquilibre et le pauvre ne peut pas résister. Après, il faut savoir, si je peux me permettre, ne pas répondre à l'exigence de l'immédiateté. Parce qu'en général, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème en France.
Un problème,
vous le relayez, sur tous les points. Vous le relayez. Et alors à ce moment-là, il y a un ministre qui dit « on ne peut pas rester sans réagir ». Donc je vais faire une norme pour pouvoir répondre à ce problème. Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'on gouverne un pays.
Monsieur Collomb, il y a un point majeur, parce que vous insistez beaucoup sur l'économie numérique, sur la nouvelle économie, les start-up et tout. Mais la France, on le voit bien, la France, elle est duale. Vous avez ceux qui sont dans cette économie-là, et puis vous avez toute l'autre France qui a peur de perdre son
bien
emploi,
sûr,
parce qu'elle est dans un système économique ancien, peut-être rouillé. Comment vous faites pour faire marcher ces deux France ensemble ?
Eh bien, si vous voulez, la deuxième vision d'Emmanuel Macron, c'est justement de repenser différemment l'aménagement du territoire. Quand on regarde comment est la France aujourd'hui, vous avez une France des métropoles. Ça va plutôt pas mal. Vous avez une France qui était de vieux tissus industriels, pour qui ça va moins bien. Celle-ci, il faut la revitaliser.
Comment ?
En l'amenant justement dans l'économie moderne, en faisant en sorte qu'on regroupe les forces autour des universités, autour de la recherche. Et il y en a partout dans les grandes villes.
Plus pas de essayer, décentralisation, alors.
Pas essayer, si vous voulez, de conserver le passé, mais de produire l'avenir. Aujourd'hui, très souvent, on voit bien quand une entreprise va mal, on se dit qu'il faut conserver de manière absolue. Non, il faut changer et faire en sorte... par la formation professionnelle, que l'on puisse faire, que les salariés puissent se reconvertir. Vous voyez aujourd'hui, sur les chiffres de la formation professionnelle, sur les 32 et quelques milliards, vous en avez 4 qui vont simplement à ceux qui sont sans emploi. C'est-à-dire redéployer tout ça.
Monsieur Collomb, pardon.
Il faut savoir que nous sommes dans une économie où la connaissance va se transformer très vite.
Très bien. Alors, formation professionnelle, ça touche aussi les jeunes qui sont lycée. Et peut-être qu'il faut orienter un peu plus vers les lycées professionnels dans certains cas. Mais simplement,
il faut d'abord,
là encore, c'est la même question
primaire,
que je vous ai posée pour les normes.
Sache lire et écrire, ce qui est déjà fondamental.
C'est la même question que je vous ai posée pour les normes. Maintenant, la formation professionnelle, c'est quoi ? 32, 33 milliards d'euros par an. C'est un fromage formidable pour des tas d'entreprises qui vous font de la formation qui ne sert strictement à rien, il va casser ça aussi ? Mais comment
écoutez,
il fait ?
Vous avez quelques collègues de Philippe Aguillon qui ont écrit sur les problèmes de la formation professionnelle et qui ont dit qu'effectivement, elle était totalement à réformer, qu'elle ne pouvait pas, évidemment, alimenter un nombre d'organismes qui est par rapport à l'Allemagne 10 fois supérieure, mais qu'il fallait effectivement recentraliser tout ça, faire en sorte qu'on investisse avec des résultats, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui.
Donc il faut vérifier.
On dépense plus pour la formation professionnelle en France que dans bien d'autres pays pour des résultats
alors,
qui sont
nuls. Il faut vérifier par exemple qu'une entreprise qui propose une formation X, on ne va pas citer un exemple précis, mais une formation X, on regarde si... ceux qu'elle a formés trouvent un boulot et si ce n'est pas le cas, on lui coupe les subventions, c'est ça le
bon
mécanisme.
Il faut regarder quels sont les métiers qui aujourd'hui sont en tension. Et moi, je vous en cite beaucoup, parce que moi, j'ai à la fois, par exemple, j'ai 48 000 personnes qui sont au RSA dans ma métropole. Et en même temps, j'ai un nombre de chefs d'entreprise incroyables qui me disent « je n'arrive pas à trouver de salariés ». Pouvoir remettre, si je puis dire, en face la demande et l'offre, ça me semble quelque chose de bien. Et c'est d'ailleurs ce à quoi on s'est attelé dans l'agglomération lyonnaise. Vous savez, on vient de faire la métropole. La métropole, c'est quoi ? C'est la fusion de l'ancienne communauté urbaine qui avait la compétence économique et puis du département qui avait la compétence sociale, et en particulier le RSA. Mais vous voyez, les gens ne se connaissaient pas. Il y avait ceux qui développaient l'économie d'un côté et ceux qui faisaient l'insertion. Nous, on a mis dans les mêmes services et aujourd'hui, comme ça, on peut remettre un certain nombre de personnes au boulot.
Là, on parle économie, on parle social, très bien, ce sont des sujets majeurs, l'emploi. Mais l'interrogation souvent, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron, sur la lutte contre le terrorisme, la sécurité, les affaires étrangères, il a quelque chose de différent à apporter ? Est-ce que là, il changerait encore tout différemment de François Hollande, de Manuel Valls, ou est-ce que la ligne serait la même ?
Eh bien d'abord, il y a une chose qui est un peu différente, c'est que lui connaît le monde.
Vous voyez, mieux que François Hollande ?
Eh bien, François Hollande, je crois qu'avant d'être devenu président de la République, il n'avait pas beaucoup voyagé dans le monde.
Il faisait Paris-Tulle une fois par semaine quand même.
Oui, ce qui est une vision du monde. Mais on voit que la route est difficile pour aller jusqu'à Tulle. Mais en dehors de ça, ça ne donne pas forcément une vision sur la Chine, sur le Japon, sur l'Asie du Sud-Est, sur l'Amérique du Nord. Et ça, Emmanuel Macron connaît et il sait les défis qui effectivement sont les nôtres. Sur des problèmes plus pointus. Ceux, par exemple, du bassin méditerranéen. Mmh. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il est en train de beaucoup travailler sur toutes ces problématiques avec les meilleurs spécialistes.
Avec qui ?
De manière... Avec un certain nombre de personnes dont je ne peux pas citer les noms, mais généraux
donc il rattrape son retard,
de géostratégie qui, effectivement, lui permettent d'identifier les problèmes et de définir Gérard, une ligne politique, ce qui n'est pas toujours évident en France.
Gérard Collomb, on nous dit, d'autres de ses soutiens, nous disent qu'il travaille beaucoup. Il travaille, mais quand est-ce qu'il va...
Même aujourd'hui.
Oui, sans doute, on va vous regarder quand même, j'imagine. Quand est-ce qu'il va nous dire, bon ben voilà, en économie, sur les problèmes régaliens, sur l'éducation, voilà ce que je propose.
Ça, il va vous le faire dans les prochaines semaines.
Attendez, les prochaines semaines, c'est quand les
prochaines
semaines ?
Non, mais les propositions vont arriver. Vous savez, c'est très timé chez Emmanuel Macron. Il a d'abord lancé En Marche. Puis ensuite, il a fait ce qu'il appelle diagnostic de la France. Après, on lui disait, il n'a pas de troupes. Il a mis des troupes dans tous les départements. Et maintenant, il va arriver aux propositions.
Il va produire.
Et vous verrez que vous serez étonné par la qualité et la profondeur des propositions qu'il fera.
Alors, vous avez publié un livre il y a 3 ans ou 4 ans, oui. Et si la France s'éveillait.
Oui, et elle ne s'est pas éveillée.
Et donc, Emmanuel Macron va arriver, si je suis votre raisonnement. Hein. Mais quand même, vous disiez ceci. La phrase prononcée par Lionel Jospin, qui lui a été beaucoup reprochée, oui. Dont beaucoup attribuent sa défaite à cause de cette phrase. L'État ne peut pas tout.
Oui.
Vous avez dit dans le livre, vous avez écrit, cette phrase ne doit pas être considérée comme étant un boulet. Au contraire, elle doit servir à relancer un dynamisme parce qu'elle reflète une réalité. Vous conseilleriez à Emmanuel Macron d'oser dire « l'État ne peut pas tout » ?
Ben écoutez, en tout cas, moi je ne sais pas si on peut le dire, mais c'est ce que je fais dans ma ville. C'est-à-dire que s'il y a le rayonnement qu'on connaît à Lyon, le développement de notre ville, je vous rappelle que quand je suis arrivé à la tête de cette ville, on devait être à peu près 25e en Europe d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on est toujours classé dans les 10 premiers. Comment on a fait ? C'est que pour 1 euro d'argent public, j'ai chaque fois 8, 9, 10 euros d'argent privé. Et tout ça, ça donne de la dynamique. Oui, c'est comme cela qu'il faut faire un partenariat public-privé.
C'est Tony Blair, ça.
Comment ?
C'est Tony Blair dans les années 90.
C'est ?
Tony Blair. Tony Blair a relancé, enfin, a pris la suite de Margaret Thatcher, mais en faisant des partenariats public-privé.
Oui, moi, je ne parle pas de PPP, si vous voulez, sens juridique du terme, mais travailler entre le public et le privé. Mais les PPP, il y en a des bons et il y en a des moins.
Emmanuel Macron, quand même, a semblé indiquer qu'il voulait recentrer l'État sur un certain nombre de fonctions et en déléguer d'autres au secteur privé. Et il a parlé par exemple des pompiers. Hein. Oui. Est-ce que les pompiers doivent rester des agents publics?
De manière précise. Il a dit la chose suivante. Aujourd'hui, vous n'aviez que des... Enfin, dans les grandes villes, que des pompiers qui étaient des professionnels. Et on commence, nous, on le fait effectivement dans notre département, à adjoindre un certain nombre de jeunes volontaires qui découvrent tout d'un coup une vocation. Et que c'était bien de les prendre, que ça valait, c'était une forme de service civique, comme un autre. Et donc, on pouvait déléguer à un certain nombre de personnes du privé un certain nombre de tâches. Vous voyez, par exemple, vous le savez peut-être, mais le nombre d'agents en matière de sécurité, qui est quand même un problème essentiel, le nombre d'agents privés est égal à peu près à celui de la police nationale. Ça veut dire qu'on le fait déjà, sauf qu'on ne prend pas en compte cette réalité et qu'on ne donne peut-être pas à ces agents privés la formation qui serait nécessaire.
J'ai une petite question. Nathalie Kosciusko-Morizet a proposé que, enfin, elle propose pas, elle suggère que les enseignants, et vous êtes un ancien enseignant, vous êtes agrégé de lettres classiques, que les enseignants ne soient plus des fonctionnaires.
Mais en tout cas, moi, je pense qu'un enseignant, il n'a peut-être pas vocation à être enseignant toute sa vie. Moi, je pense qu'il faudrait que dans les fonctions publiques, il y ait de la fluidité, qu'on puisse passer d'un service à un autre service, parce que quand même, quand vous arrivez, vous avez fait 40 ans le même job, vous avez peut-être envie quand même de faire quelque chose. Autre part, vous voyez, moi j'aimerais bien qu'un enseignant, il puisse aller dans les MJC, dans les centres sociaux, dans les théâtres, etc. etc. Bref, qu'il y ait une fluidité de notre société. Notre société aujourd'hui, elle est bloquée. Chacun dans sa case, chacun dans son statut, c'est effectivement ce qui nous tue.
Emmanuel Macron, c'est, disiez-vous tout à l'heure, l'image de la modernité entrée dans le monde contemporain. Et donc, vous avez évoqué le cas du numérique et vous avez parlé des jeunes, et notamment des jeunes des quartiers. Eh bien, on voit ce que ça donne, le numérique. Effectivement, à travers Uber, par exemple, ils trouvent du travail, mais c'est un travail qui ne va pas leur permettre de s'épanouir. C'est un travail dans lequel ils vont rester cantonnés. Est-ce qu'il n'y a pas, là, finalement, à travers toute cette prise en compte du numérique, le développement de deux sociétés, ceux qui vont savoir se servir des nouvelles technologies pour innover, et puis les autres qui vont être finalement les prolétaires d'hier, ils seront des prolétaires du numérique, mais prolétaires quand même.
Vous savez, dans les cités sur le numérique, on est quelquefois plus fort que vous ne croyez.
C'est exact.
On n'en fait pas toujours un bon usage, mais en tout cas, on est assez fort. Donc, plutôt que d'en faire un mauvais usage, autant en faire un bon usage. Mais votre exemple est très intéressant. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on ne peut pas être dans la société de demain comme dans celle d'hier. Vous parlez d'Uber. Mais voyez qu'aujourd'hui, on est en train de travailler, tout le monde y travaille, sur la voiture sans chauffeur. Et nous, on en a expérimenté un modèle à Lyon. Ça veut dire que le modèle économique et donc social de demain ne pourra plus être ce qu'il était hier. Et donc, il faut le repenser.
Et comment on fournit du travail à tout le monde ?
Eh bien, en créant d'autres choses, en étant à la pointe de l'innovation. Vous voyez, aujourd'hui, je regardais les derniers chiffres de croissance aux USA, 2,9, pendant que nous avons des difficultés à décoller. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont eux qui innovent partout. Et moi, je veux qu'on ait des systèmes d'innovation partout en France, comme on peut les avoir aux États-Unis, comme on commence à les avoir en Chine. Et croyez-moi, la Chine qui aujourd'hui dépense plus que l'Europe pour sa RND, ça va faire mal dans quelques années si jamais nous n'y prêtons pas attention.
En attendant d'avoir le détail du programme, est-ce que vous donnez déjà des conseils à Emmanuel Macron sur la manière de mener sa campagne? En 95, vous alliez chanter dans les maisons de retraite pour décrocher le 9e arrondissement de Lyon. Est-ce qu'il ira chanter dans les maisons de retraite?
Je n'ai jamais écouté Emmanuel Macron chanter, donc je ne peux pas encore lui donner de conseils.
La campagne, elle sera différente au-delà des propositions?
Oui, elle est déjà différente. Lorsque vous regardez quelles sont la forme de ces meetings, c'est très différent. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans l'interactif, dans la participation. Chacun de ces meetings, comme vous le savez, commence par un certain nombre de témoignages de gens qui, effectivement, ont des expériences différentes. Et il faut donner... montrer la diversité de la France pour justement arriver ensuite à rassembler.
Yves Tréhard.
La laïcité est un sujet au cœur aussi de la campagne présidentielle, sujet très français. Quel visage doit avoir cette laïcité? Est-ce que c'est une laïcité militante, comme parfois Manuel Valls l'exprime, ou est-ce que ça doit être une laïcité plus souple, qui tolère des accommodements raisonnables, comme certains le disent? Je crois que c'est Alain Juppé.
Alors, si vous voulez, c'est une question dont nous avons beaucoup parlé ensemble avec Emmanuel Macron.
Vous êtes d'accord, tous les deux?
Oui, bien sûr. Ouais. On se réfère, en fait, à ce que dit Aristide Briand. Vous voyez, dans la laïcité à la française, il y a eu deux écoles. Il y a eu le petit père Combes, qui pensait que la loi de 1905, c'était une loi de combat contre les religions. Et vous avez Aristide Briand qui rapporte à l'Assemblée nationale et qui dit « c'est une loi de liberté pour que tout le monde puisse effectivement exprimer sa spiritualité comme il veut, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique, à une condition, c'est qu'on tolère effectivement l'autre et qu'on ne veuille pas imposer une vue monolithique. »
Vous n'avez pas peur de virer vers le multiculturalisme à ce moment-là ?
Non, je crois que...
C'est-à-dire une espèce de communautarisme, en fait, où chacun...
Non, ce n'est pas du communautarisme. Chacun, dans cette salle, a ses convictions philosophiques, religieuses, et ça ne nous empêche pas d'être ensemble. Moi, ce que je veux, par exemple, vous savez, je ne sais pas si vous voulez m'en parler, mais qu'on va faire à Lyon un institut de civilisation musulmane.
On allait vous en parler.
Voilà. Moi, je veux montrer, d'abord, que l'islam, c'est quelque chose de très différent. Que quand vous regardez les différentes familles de l'islam, elles sont extrêmement différentes. On le voit bien d'ailleurs, quelquefois avec des affrontements très graves, chiisme, sunnite, etc.
Chez vous.
Comment ?
Votre institut ne fait pas consensus chez vous. On a vu que ça faisait tiquer du côté de
Laurent
Wauquiez, la région.
Ils font tiquer du côté de Laurent Wauquiez, mais parce qu'ils ne savaient pas ce que l'on voulait faire exactement. Moi, je veux d'abord qu'on fasse apprendre l'histoire. Qu'on replace effectivement la naissance du monde musulman dans ce que le monde a été avant. Finalement, l'islam, c'est aussi, si je puis dire, d'une certaine manière, la continuité du judaïsme, la continuité du christianisme.
Vous avez lu le Coran?
Oui, je l'ai lu. Bon, j'ai lu en tout cas des extraits du Coran, des résumés du Coran, parce que le Coran, c'est un peu difficile. Mais oui, effectivement, j'essaye de penser le fait religieux, parce que le fait religieux est un fait fondamental. Vous voyez, l'homme n'est pas que matérialiste. Si un certain nombre de gens ici se dépassent par l'écriture, par l'architecture, par la création théâtrale, c'est parce qu'il y a besoin de se sublimer. Et la religion est aussi une façon de se sublimer. Mais de la même manière que nous avons eu des guerres de religion qui ont été terribles et nous les avons vaincues, quand je vois aujourd'hui chez moi quelle entente il y a entre les protestants, les catholiques, et que je repense qu'il y a quelques siècles, dans les rues de Lyon, on s'entr'égorgeait, je me dis qu'il n'y a pas de fatalisme à ce qu'effectivement on soit dans l'affrontement dans lequel on est aujourd'hui.
Merci Gérard Collomb. Une dernière question. Pour Noël, on saura si Emmanuel Macron est candidat?
À mon avis, oui, vous pourrez fêter Noël en toute quiétude.
Merci Gérard Collomb, c'était votre grand jury qui sera rediffusé ce soir sur LCI à 18h30. Bon après-midi à tous.
Vous écoutez RTL.